aussi naturellement que l'eau d'une goutte de pluie qui tombe dans la montagne va se retrouver dans un petit ruisseau, puis plus tard dans une rivière qui va se jeter à un moment donné dans la mer. Le Bouddha semble nous dire que c'est aussi naturel qu'un esprit qui est en pleine conscience, très naturel pour cet esprit-là de développer de la curiosité, très naturel que cette curiosité attentive libère de l'énergie et que ça donne place à la joie et que la joie ou l'enthousiasme créer le calme, soit la condition nécessaire à ce que le calme soit créé naturellement, puis que le calme naturellement mène vers la concentration, qui naturellement, absolument naturellement, mène vers la stabilité d'esprit ou équanimité, qui naturellement va nous permettre de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, Vipassana, insight, expérience directe de la réalité. Alors, l'ordre, là, il revient souvent dans les textes, il est très clair. C'est la présence attentive, quand elle est véritablement là, naturellement fait naître la curiosité. Si on s'attarde à quelque chose un petit peu, quelque chose va surgir qui va nous intéresser. Naturellement, on va être énergisé. Ah! J'avais pas senti ça. Naturellement, la joie. Un esprit joyeux, naturellement, va se calmer, va devenir calme. Parce que content, contenté, naturellement, va être concentré. L'esprit va être unifié, plus éparpillé, mais content, calme, unifié, équilibré. Condition parfaite pour découvrir la nature de la réalité. Alors ça, c'est présenté comme cause à effet, là, très... Et donc ici, c'est pour ça qu'on parle entre autres beaucoup de présence attentive, de valoriser cette présence-là. Moi, comment on me l'a appris, c'était vraiment d'un moment, moment to moment. À chaque moment, je pourrais le traduire comme ça. Donc ça devient, pour moi, ça parle énormément, encore une fois, de continuité. On en a parlé un peu la semaine dernière, peut-être au mi-point de la retraite, là, ce qu'on est ici, là, peut-être à ce moment-ci, ce soir, c'est la moitié de la retraite pour les gens qui sont arrivés pour la semaine. Alors ça devient, en tout cas moi dans ma compréhension des choses, là, ça devient très important à chaque moment. Puis donc aujourd'hui, quand je disais attention à la marche, tu sais, parce que si je viens m'asseoir ici, que je fais l'effort d'être attentif, que je vais m'asseoir dehors, puis tout à coup ça devient vague, un peu vague, les montagnes, vaguement présent, tout ce qui était construit. C'est cool. Se dissipe. Je me remets à entraîner quelque chose qui n'est pas de l'ordre du délicat, du précis, d'une présence. Et donc là, tout l'art est là, là, parce qu'on pourrait se mettre à forcer, ce serait épuisant, on n'y arriverait pas. Puis d'un autre côté, on pourrait facilement abandonner ici et là. En anglais, on appelle ceci le stop and go practice. Épuisant. Parce qu'on met un effort, on commence à construire quelque chose, puis on laisse tomber, ben, on retourne vers nos fantaisies, nos obsessions, nos trucs, librement. T'sais, on se sent libre de le faire. Et là, on recommence. Il paraît, je ne sais pas parce que je ne conduis pas de fusée, je ne suis pas un pilote de fusée, mais il paraît que l'image qui est utilisée parfois, c'est comme si on lançait une fusée dans l'espace. Apparemment que pour lancer la fusée, là, initialement, ça prend énormément d'énergie. Puis un coup que la fusée est rendue dans l'espace, il paraît qu'il suffit de réajuster le tir si on veut se rendre jusqu'à la Lune. Qu'on n'est jamais directement vers la Lune, mais comme... Puis à un moment donné, on arrive à la Lune. Il paraît que ça fonctionne comme ça. Je sais pas si j'aurais assez d'informations pour l'essayer. Mais cette image-là, moi, je l'ai entendue au début de ma pratique, puis je l'ai entendue souvent pendant les années de ma pratique. Ça m'a beaucoup servi. On me dit, ah tiens, Pascal, c'est pas là, comme l'effort qu'on va le faire. Puis là, tout à coup, oh, on laisse tomber, puis on fait autre chose. Là, on prépare la semaine prochaine, ce qu'on va dire aux gens, etc. Là, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus minutieux que ça. Et délicat. Alors, on ne peut pas rentrer là, avec le... C'est très, très délicat, mais donc l'effort juste, c'est peut-être beaucoup une sorte de continuité. Comment ne pas abandonner? Et je veux dire, le défi, dans un sens, est énorme, mais la pratique devient assez simple. Je voyais juste pour moi, au moment où j'ai pris mes cahiers pour me lever, pour m'en venir ici, donc j'étais avec, il y avait les cahiers comme ça, puis je me projetais ici. Je me disais, ah, c'est quoi les premiers mots, comment ils vont être, quelle va être l'ambiance. Et c'était très facile pour moi de ne pas me rendre compte que c'était des pensées. Je pouvais vraiment comme adhérer, adhérer, on pourrait. J'ai entendu les genoux utiliser ce verbe que je trouve très, très, très bien, adhérer, comme j'aurais pu saisir mes pensées, adhérer à mes pensées comme une réalité, comme il y a des gens là, ils sont assis, une sorte d'énergie, c'est quelle énergie là-bas? Est-ce que vous me voyez? Et là, je devais être très attentif en déplaçant mes cahiers, en ouvrant et en fermant la porte pour pas être pris par un monde alternatif, là, par une sorte de folie. Ou est-ce que c'est là-bas que ça se passe, ça existe vraiment? Il faut que je... Ah non! Il y a un corps ici qui est en déplacement. Là-bas, ça n'existe pas. C'est une production immédiate. Là. Ici, dans l'escalier, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réalité? L'esprit pense. La présence a pris la forme de pensée. Je pouvais facilement être dans la méprise, me méprendre, puis tout à coup... croire momentanément que je suis là-bas, que c'est là-bas, etc. Puis tout à coup, il y avait... Ah, waouh! Je me rendais compte qu'il y avait une folie qui durait 2 ou 3 secondes là-bas, là-bas. Puis tout à coup, ah non, ici, ici. Là-bas, ici. Et que là-bas, en fait, il n'y avait pas de là-bas. Même, je continue à dire là-bas, ça montre la force de la méprise, là. Hein? Il y avait un événement qui se passait. Donc, pour moi... Toute cette chaîne-là qui mène à voir la réalité telle qu'elle est, c'est de savoir que Pascal pense. Ce que je peux complètement ne pas savoir, parce que c'est là-bas. Et ça existe vraiment. Je sais pas si je suis tout seul dans ma compréhension des choses. Mais donc, si on est très attentif, d'un moment à l'autre, très, très, très attentif, donc, ça, c'est pas forcé. C'est avoir développé le calme, l'équilibre qui permet de... Tu sais, parce que j'imagine si je regarde quelque chose dans un microscope, puis que ça bouge comme... J'arriverai pas à voir quelque chose. Alors, ça me prend beaucoup de calme, beaucoup de stabilité pour permettre à la réalité d'être révélée encore et encore. Que Pascal est perdu dans ses pensées, par exemple. Puis de m'éveiller à ceci. Que, ah non... La vie, elle est ici en ce moment. Le reste, c'est une pensée. Donc, dans cette pratique-là, d'un moment à l'autre, beaucoup de découvertes peuvent être faites, puis je voudrais en nommer quelques-unes ce soir. Entre autres, on va découvrir beaucoup... C'est ça, je suis un peu dans le champ de, je crois ce soir, dans le champ de la... saisie et de la méprise. Je pense que c'est un peu ça qui se formait là en moi. Il y a une liste classique des quatre... Encore une fois, ça pour moi, je le vois comme des instructions, un peu comme de la matière pour la recherche peut-être en temps réel, pour pas évacuer ça. Alors, comment écouter un enseignement? Comment écouter un enseignement? Oui, on peut prendre des notes sur le truc, mais une autre façon, ce serait de le voir comme des instructions en temps réel. Moi, c'est comme ça que j'écoute un enseignement, du moins. C'est comme ça qu'on m'a appris à écouter un enseignement. Donc, même physiquement, ce qu'on m'a appris, puis c'est juste, c'est ça. Il y a plusieurs façons, j'imagine. Mais ça, c'était, Pascal, moi, je te suggère de t'asseoir en posture, de fermer les yeux et de ne pas te perdre comme ça, mais de rester là, de laisser les mots venir, puis voir comment ça impacte. Voir si tu peux goûter à ces différents aspects-là de ce qui est nommé en temps réel. Voir qu'est-ce que ça fait naître en toi, être très conscient de. Donc, il y a ça. Donc, pas nécessairement pour pratiquer plus tard, mais pour pratiquer immédiatement. Mais aussi des éléments pour nourrir notre exploration ce soir, demain, dans la journée. La saisie. La saisie. Quand on reste accroché à quelque chose, quand il y a c'est un événement mental, une prise, il y a quelque chose qui. Le cœur ou la psyché se resserre autour d'un truc, là. Ah. Donc là, moi, j'essaie de mettre des mots là-dessus. Évidemment, ça va être pour nous à déterminer en temps réel, là. Ah tiens, voici de quoi. Ah oui, là, j'en ai une bonne. Ou j'en ai une subtile. Ou j'en ai une grosse saisie. Hein. Entre autres. Peut-être une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est une enseignante avec qui j'ai eu la chance de pratiquer, de travailler, docteur Tintin, birmane. Elle disait, si tu penses trois fois de suite à une chose, là, tu peux être presque sûr qu'il y a une saisie. Ou trois fois la même chose, pas nécessairement de suite immédiatement, mais tu sais, si vous, quand est-ce que la cloche va sonner? Quand est-ce que la cloche... Je me demande quand la cloche va sonner. Ah, est-ce que la cloche va sonner? Ah! Là, on a une saisie. Alors, c'est intéressant, non? Parce que vous avez... À quoi? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous avez pensé trois fois au moins depuis le début de votre séjour ici? Bon. Alors, ça peut être une indication. Alors, la saisie comme événement mental qui est apparemment la source de notre souffrance, trouble, confusion. Puis là, c'est ça, on va essayer de voir un peu que différentes formes de saisie. On a des plus grossières, des plus subtiles. Une forme de saisie, peut-être qu'on peut tous reconnaître assez rapidement, qui est... L'attachement, le désir avide des plaisirs des sens. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose comme ça? Des fois, dans la salle à manger, ça peut devenir assez tangible, on pourrait dire, hein? On est, par exemple, dans la file pour pouvoir se nourrir, on fait la queue et on sent la saisie, hein? On la sent bien, on voudrait être devant, on voudrait être un pas devant. Où on voudrait avoir la main sur la louche. On y est presque, mais notre impression, c'est que la réalité qui vaut qu'on s'y attarde, c'est celle au moment où la main atteindra la louche. Hein? Alors il y a une saisie là, c'est comme tout à coup on croit que c'est là, pas ici, mais là. Donc, on voit ça quand tout à coup l'étau se resserre ou la psyché se resserre, il y a un goût, on est plus ou moins conscient, tout ça, on prend un truc. Tout... Précieux. Mien. Recette. En reste-t-il? Comment, tout en étant socialement acceptable, puis-je atteindre le dernier morceau de. Et donc, bon, c'est facile d'y aller avec le sens du goût, mais ça s'applique à tous les sens, là. Donc, cet attachement-là qu'on peut voir naître de la recherche du plaisir, qui vient avec une même sorte d'une saisie opposée de la crainte du déplaisir. Puis on est beaucoup comme ça. J'imagine que c'était peut-être présent, ce serait naturel que ce le soit. Par exemple, à l'arrivée au centre de retraite, trouver mon coussin, dans la chambre, mon lit. Tu sais, gérer le. Et on peut venir, on peut devenir là, vraiment comme des lions, lionnes, que j'en vois un fermer la fenêtre. Ouvrir la porte de la salle de bain. Ou je sais pas quoi, mais est-ce que vous reconnaissez ça? Il peut avoir. Ça, c'est beaucoup relié au plaisir des plaisirs, ce qui est la recherche du confort, la peur de ne pas avoir le confort. Ça peut mener vers toutes sortes de choses, on va peut-être le voir plus tard, mais vers l'opinion, par exemple. Il paraît que le Bouddha semblait dire, en tout cas dans certains commentaires que j'ai lus, que le Bouddha disait, waouh, regardez, regardons nos opinions. Sont peut-être à 98,9% basés sur une notion de plaisir ou de déplaisir. Alors ne me croyez pas, vérifiez pour vous-même. Oh, on ne devrait jamais. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est relié ou pas du tout à la notion de plaisir ou de déplaisir? Hein? Très intéressant de voir ça. Donc, comment l'esprit peut s'accrocher. Donc, ici, un peu de désagrément, on s'ennuie un peu. Fantasme. Et si j'étais, je ne sais pas où, plutôt en Dordogne. Ou si j'étais, je ne sais pas où, dans les Caraïbes. Hein? Alors, on voit comment. Ça peut nous prendre, puis on peut devenir très chargé autour de ça. Si on est ici, tout va bien, c'est calme, on est bien, puis là, tout à coup, je sais pas, quinte de tout, chaton, national, je sais pas quelle peut être la stimulation sonore, là, mais tout à coup, croum, tout à coup, on est troublé, là, on est notre la bulle est pétée. C'est disparu. Et là, t'as détruit mon plaisir. J'étais bien jusqu'à ce que tu respires. Donc là, il y a un champ très intéressant. Une chose, plus l'esprit va se calmer, peut-être qu'on pourra voir quelque chose de l'ordre de les sens qui deviennent utilisés. C'est comme si les sens sont détournés pour devenir des radars qui recherchent le plaisir. On peut voir, tu sais, des fois, moi, je me promène sur la rue commerciale chez moi, puis mon regard, si je suis un peu distrait, mon regard va vers les vitrines, puis c'est comme si je cherchais quelque chose à vouloir. Je regarde, qu'est-ce que je pourrais vouloir? Il doit y avoir quelque chose que je pourrais vouloir. Hein? Alors, il y a un genre de cercle vicieux qui peut être intéressant à observer, là, où est-ce que on va projeter sur quelque chose la satisfaction. Par exemple, ici, la plupart d'entre nous, on a peut-être projeté sur la retraite, il y a quelques mois, la satisfaction. Et on est ici, là, puis on projette sur à la maison. Si je pouvais être à la maison. Et quand on va être à la maison, on va se rendre compte que pas aussi satisfaisant que ça paraissait. Et donc, on va souvent aller comme ça, on va projeter la satisfaction sur quelque chose, si seulement. Puis là, il y a cette saisie. Là, on devient comme ça. Je veux que l'autre soit comme ça, me voit comme ça. Je veux être perçu comme ça. Ça s'attache à toutes sortes de trucs. Le cercle vicieux, c'est qu'on projette la satisfaction sur un truc qui n'a pas le pouvoir de nous satisfaire. Et comme on a projeté sur cette chose-là la satisfaction, ça crée encore plus de désir. Puis là, il y a un cercle vicieux comme ça qui s'entraîne. Puis là, on obtient la chose, elle n'est pas très satisfaisante, finalement, Mais comme on a entraîné l'avidité, le désir, la projection sur les choses, on va projeter sur autre chose. Bon, maintenant que j'ai le boulot que je croyais qu'il allait me satisfaire complètement, il me satisfait pas complètement, mais si j'avais un autre collègue dans la même fonction, même truc, mais un autre, là, ça serait bien. Et comme ça, on va aller attacher, on va projeter notre désir de satisfaction sur autre chose. Puis ici, mais ça se passe. Si la cloche pouvait sonner, je serais vraiment bien. Est-ce que vous êtes vraiment si bien que ça un coup qu'elle a sonné? Une fois qu'elle a sonné la cloche, là, est-ce qu'on est vraiment si bien? Pas tant. Finalement. T'sais, on se retrouve dehors. Quand est-ce qu'on va aller s'asseoir? Puis comme ça, quand est-ce que je vais pouvoir être libéré de ce truc pour être chez moi? Puis chez moi, d'après moi, ça ne serait pas absolument satisfaisant. Donc on va projeter sur une prochaine retraite. En tout cas, encore une fois, il ne faut pas croire à ça, mais aller vérifier comment on fait ça. Puis comment ça nous, c'est intéressant, comment tout à coup, on dirait que ça suggère que le bonheur est là-bas. Puis là, on est comme la carotte, au bout du bâton, puis comme ça. Et ici, on est invité à prendre conscience du truc. Puis quand on prend conscience du truc, on découvre la nature accablante du désir avide, de la saisie. Parce qu'on veut autre chose, mais quand on laisse tomber la fascination pour l'objet, puis qu'on revient ici, on trouve quelqu'un qui vit une expérience de manque, qui est un peu misérable, en fait. Et si on est capable de soutenir ça, de ne pas retourner vers la fascination, mais de rester là, il pourrait naître la compassion, il pourrait naître la sagesse. Waouh, c'est épuisant de vouloir autre chose tout le temps. Puis là, on peut ouvrir sur peut-être autre chose, plutôt que dans la culture dominante, on pourrait dire le bonheur, c'est de satisfaire ses désirs. Non? Quand j'ai enfin ça, je serai heureux. Donc la soif et la satisfaction de la soif. Même que peut-être, je sais pas si vous reconnaissez quelque chose là-dedans, mais inconsciemment, d'une façon inconsciente, une façon de penser à la liberté, ça pourrait être que la liberté, c'est la capacité d'avoir des désirs et de les satisfaire. La capacité de produire des désirs puis de les satisfaire. Ça, c'est souvent ce qu'on nous propose là, dans les publicités, les trucs. Et donc, la proposition qu'on a ici est très différente. C'est peut-être l'abandon de la soif ou de la saisie dans cette forme-là. L'abandon de cette croyance-là. Mais d'abord, il faut noter comment c'est que de constamment vouloir être ailleurs, dans l'autre moment, plus tard, ou dans le passé. Hein? On peut, ce qu'on appelle la mélancolie. Ah, jadis. C'était là que ça avait de la valeur, parce que c'était plaisant. Une fois, j'étais comme ça, assis pendant la retraite, puis je m'étais mis à fantasmer. J'avais un fantasme très fou. Ben, qui allait un peu avec mon style de vie. Je me promenais d'un centre de retraite à l'autre, puis je me disais, ah tiens, si j'avais l'argent pour m'acheter une voiture, je pourrais vivre dans ma voiture. Et là, le truc que mon esprit m'avait joué, c'est que tout ce que j'envisageais comme vie dans la voiture était plaisant. Je pouvais traverser les parcs nationaux canadiens, américains, dormir sur le siège arrière. Parfois, l'auto avait un problème mécanique, mais je m'arrêtais dans un truc au milieu du désert. Ça prenait des jours avant qu'on la répare. On était bien, il faisait chaud, etc. Puis j'étais comme, wow, si je pouvais vivre avoir une voiture, puis vivre dedans. T'sais. Puis un moment où tout à coup, je me suis réveillé, puis je me suis dit, wow. J'ai comme évacué tout le déplaisir, puis la neutralité du fantasme. C'est ça, c'est. Tout à coup, tout est beau. Puis ça peut avoir l'air fou, mais ça se peut que nous, on fasse ça comme ça avec chez nous. Quand je vais être chez moi, puis là, qu'on a évacué toute la réalité qui fait qu'il y a du déplaisir, du plaisir. Puis donc, on peut faire une saisie. On peut aussi saisir de la même façon avec le déplaisir. On imagine quelque chose, ça va être très déplaisant. Puis là, on est accroché, on adhère au truc. Une façon que la saisie a lieu aussi, je pense, c'est qu'on chosifie quelque chose. Alors, il y a une pensée, puis on y croit, comme c'est un, comme moi, la voiture. Ça devient une chose, puis je suis accroché à cette chose-là. Je ne me rends pas compte. J'ai pas un esprit sain. Un esprit sain ou sage saurait qu'il y a une production mentale qui est fausse, qui est une génération de l'esprit. Mais moi, je suis accroché à un truc, j'y crois, comme étant quelque chose de satisfaisant, permanent, puis que je pourrais vraiment posséder. Donc, trois méprises. Je projette la satisfaction sur quelque chose qui n'a pas la capacité de satisfaire. Pourquoi? Parce que éphémère, conditionnel, vacillant, qui a la nature d'apparaître, de disparaître, etc. Qui est pas comme ça. Donc, saisie autour du plaisir des plaisirs, comme on reste accroché à quelque chose. Quelqu'un a dit quelque chose un jour, il y a 18 ans. C'était déplaisant. Et je me suis accroché. Et j'y tiens. Et qu'on n'y touche pas. C'est précieux. On a chosifié le truc dans notre tête est permanent, existe à quelque part. On le revivifie, comme suggérait Charles. On lui redonne de la vie, on le chérit d'une certaine façon. Hein. Puis on n'a pas encore réalisé que cet événement-là est passé à peut-être durer moins d'une seconde, en fait. Mais on n'a pas cette capacité-là, on n'a pas cette sagesse-là. On n'a pas encore vu l'apparition et la disparition. On croit à la permanence des plaisirs des plaisirs. On ne le dirait jamais dans une conversation, mais c'est une croyance cachée. On y croit. Satisfaisant, durable. Même dans le passé, ça reste, ça continue à exister. Et donc, ce n'est pas volontaire de dire, OK, j'abandonne. Je comprends ce que tu dis, Pascal. J'abandonne ce truc sur lequel il y a une saisie, là. C'est, tu as dit ça, tu vas payer pour le reste de tes jours. Est-ce qu'il y a juste moi qui est comme ça? Il y a juste moi. Et donc, c'est ça, ce n'est pas volontaire. Hein? Le lâcher prise, Patricia le disait hier soir, je suis d'accord avec ça, ce n'est pas volontaire. Le lâcher prise, d'après moi, advient naturellement avec une vision claire des choses. Quand on comprend profondément, intuitivement, clairement la nature impermanente, passagère des choses, cette insight ou intuition peut avoir différentes forces. Une force d'intuition. Quand les conditions sont réunies, que l'esprit est extrêmement calme et stable dans sa rencontre avec la réalité, ça peut être un seul phénomène. Et ça peut être comme l'expérience du pas qui ne dure qu'un moment, là. Cette expérience du pas qui passe. Puis si l'esprit est très, très stable, il pourrait être profondément touché, secoué par la nature éphémère d'un phénomène parce que tout. T'es disponible, on est là pour l'événement, pas dans une idée préconçue, pas dans. Et au moment où le pied touche et se relève, par exemple, on voit que ça, cet événement-là a duré un seul instant et qui est disparu. On est touché profondément par ça. Puis si l'intuition, les conditions sont bonnes, l'intuition pourrait être tellement fort, secouer tellement qu'il pourrait se propager à toute. Les phénomènes, on pourrait comprendre profondément que tous les phénomènes sont éphémères, mais d'une façon, c'est ça, intuitive, pénétrante, incarnée. Donc on serait secoué dans notre croyance. Là, on verrait que, ah, tout à coup, que c'est seulement des probabilités, des statistiques, une croyance, le fait que il y a une fin, là, que la retraite a encore quelques jours, que c'est une fabrication mentale, qu'on n'est absolument pas certain de ça. que l'enseignement va finir à 20h30, c'est clairement une fabrication mentale. Quand je regarde qu'il me reste trois trucs, puis 15 minutes. Puis quand on clarifie ça, ben, des fois, il y a la terreur, hein? Ça fait partie du développement de la pratique, les stades du développement des intuitions. Je ne sais pas comment traduire ce stages of insight, le développement de la sagesse. Il y a des moments où on décrit vraiment, on est choqué, secoué de voir qu'on avait une méprise. On vivait dans un monde auquel on avait appliqué, créé une temporalité, une sorte d'assurance, tout ça. Puis en fait, que les choses sont beaucoup plus vacillantes. Je répète ce mot-là qui semble être la traduction d'un mot que le Bouddha aurait peut-être utilisé, comme la flamme d'une chandelle, vacillant. Pourquoi on est en choc quand tout à coup on apprend que quelque chose qui existait n'existait plus ou que quelque chose qu'on croyait être stable l'était pas autant? On est choqué parce que on avait une méprise. On ne savait pas que tout à coup, boum, les choses pouvaient virer comme ça. Puis certains d'entre nous, en fait, on le sait parce qu'on l'a vécu dans notre vie. Il y a eu un moment où, waouh, l'histoire a changé complètement. On ne l'avait pas vu venir, on ne pouvait pas. Et c'est possible que dans ces événements-là, certains d'entre nous, on ait eu un insight, une intuition, une compréhension profonde de la nature impermanente des choses. Moi, un jour, j'étais chez le médecin, puis il m'a dit, ça va pas du tout la santé, c'est fini, il n'y en a plus. Ça a vraiment mal tourné, tu sais. Je me souviens, j'étais assis dans le bureau du médecin, puis c'est comme si on était, je pense, au 10e étage ou quelque chose comme ça, dans une clinique, dans une tour. C'est comme si j'avais compris que la tour aussi pouvait s'effondrer, que c'était juste une idée que j'avais que la tour était stable. Que c'était pas vrai, en fait, que c'était une conception. Et pourtant, la tour est restée. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de probabilités qu'elle reste les prochaines secondes. Mais quand même, ça m'a révélé la nature de mes pensées, à quel point j'adhérais, j'avais saisi une croyance comme étant vraie. Il y avait une méprise, qu'en fait, les choses peuvent tourner comme ça. Ce que je raconte là, l'intention du moins, c'est pas de créer l'anxiété, mais ça peut être anxiogène d'entendre ça. Je le comprends. Malheureusement, ou en tout cas, je ne sais pas comment dire, mais on s'est engagé dans un chemin de découverte de la réalité. Alors, il faut quand même qu'on en parle à un certain moment, que on ne sait pas ce qui s'en vient. On n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Puis donc, que les choses sont vacillantes. Ils le sont même en ce moment, même si tout n'a pas mal tourné, là, il ne s'agit pas juste de ça. Mais pour moi, ce que j'observe, c'est que les choses sont vacillantes. Du point de vue de mon expérience humaine, je pense que la pratique s'intéresse à ce point de vue-là, pas à la nature de la réalité nécessairement, autant qu'à l'expérience humaine. Dans l'expérience humaine, je vois que ma compréhension de moi-même, ma vision de moi-même est vacillante. Je suis un très bon prof, un très mauvais prof. Tu sais, ça passe comme ça, vacille, ça peut aller très 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 vite. Des flashs comme ça, tout à coup. Boum! Une nouvelle identité complètement. Celui qui a raté, celui qui. Etc. Ça passe de toutes sortes de façons comme ça. Même mes orteils, je le dis souvent, sont absolument vacillantes. Les vôtres aussi, elles viennent juste d'apparaître dans votre champ de conscience. Avant, elles étaient absentes. Et toute la réalité est comme ça. Les gens qu'on aime, absolument vacillants. Ils l'ont été tout le long, on n'avait pas remarqué. Et un jour, on va peut-être s'en rendre plus compte. Mais ils apparaissent, ils disparaissent constamment de notre conscience. Ils sont pas permanents de cette façon-là. Du point de vue de notre expérience humaine, les choses sont vacillantes, apparaissent et disparaissent. Encore une fois, on n'a pas à croire ça, on a juste à vérifier si les choses sont toujours en existence dans notre expérience, de façon permanente. Non. Un autre champ de saisie, c'est comme des vases communicants, je les sépare, ils sont séparés, mais en fait, c'est une façon de nous aider peut-être à réfléchir au truc, à considérer le truc, puis une façon de nous aider sur le terrain, là, dans l'action, à faire ressortir des aspects. On dit que les êtres humains peuvent facilement aussi saisir, ben c'est de ça que je parle depuis 20 minutes aussi, mais une opinion, un point de vue. Mais je vais le faire de façon un peu plus grossière. Est-ce que vous avez remarqué comment vous pouvez avoir une opinion sur quelque chose, puis qu'il peut y avoir une réelle, une belle, grosse saisie, là? Hein? Ça devrait être comme ça. Donc, comment on peut saisir un point de vue et se créer du trouble avec? Et c'est très étonnant quand il semble que le Bouddha dit les points de vue, les compréhensions du monde, les visions du monde, etc., devraient mener vers la liberté et le calme. Est-ce que c'est le cas avec vos opinions? Est-ce que vos opinions, est-ce que les miennes, est-ce que nos opinions nous mènent vers le calme et la liberté? C'est intéressant, hein? Pour moi, c'est très intéressant comme utilisation de l'opinion. Comment Pascal manipule-t-il une opinion? Puis si je m'y accroche et tout, c'est très, très souffrant. Ça peut être très, très, très souffrant pour moi, puis encore plus pour les autres qui sont pris avec un Pascal opiniâtre, là, qui a une opinion, qui a fait une bonne saisie, là, qui mord dedans. Et donc, c'est intéressant en termes de liberté. Je trouve que ça devient très applicable tout à coup. OK, j'ai une opinion. Comment mon opinion peut me mener vers, oui, peut-être la clarté, mais le calme et la liberté. Comment est-ce que je peux être... Et ça, c'est très beau. Puis on voit des fois, il y a des êtres qui ont ça, ils ont une clarté. Et ils vont dire, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, mais il n'y a pas la saisie. Il y a juste la clarté et beaucoup d'énergie à engager dans la... Non, les choses ne devraient pas... Il y a un abus de pouvoir dans telle situation, où il y a un groupe qui est oppressé. Ici, ça ne va pas du tout. Et comment est-ce que ça, cette vision-là, ce point de vue-là, cette opinion, pourrait être portée avec courage, clarté, équilibre, de telle sorte que plutôt que de nous d'être énergivore, c'est-à-dire de nous retirer toute notre énergie, on en perd le sommeil, on devient hyper agité dans une opinion, etc. On n'arrive même plus à argumenter parce qu'on est tellement saisi, on est tellement dans la saisie qu'on perd tous nos moyens. Alors ça, je trouve, c'est très applicable dans la vie, puis pendant qu'on est ici. Comment est-ce que je pourrais clarifier des choses pour moi? Donc, il n'y a pas d'opinion et c'est vague. Le Bouddha semblait avoir énormément d'opinions. Mais comment est-ce qu'on peut vivre sans s'accrocher à une opinion? Puis peut-être la défendre, peut-être même mettre sa vie en jeu. Je pourrais avoir une opinion puis décider que ça vaut la peine de faire une grève de la faim pour cette opinion-là, sans peut-être qu'il y ait de saisie. Est-ce que vous voyez le... Moi, je trouve que c'est très riche, là. Ça m'intéresse. Ce genre d'enseignement-là, pour moi, c'est que, oh oui, allons voir, parce qu'il y a de la matière. Parce que j'en ai des opinions, puis je suis pas sûr que je les porte toutes aussi bien les unes que les autres. C'est ça, il y a des personnages qui étaient très beaux à voir, qui peuvent être très inspirants de cette façon-là. Ils ont une clarté à propos de ce qui doit arriver dans leur société. Et ils vont mettre toute leur énergie, toute leur vie là-dessus, mais ils vont éviter la saisie. Ou, ici, en tout cas, les instructions, c'est s'il y a saisie, devenons conscients. C'est pas comme si on disait qu'il devrait pas y avoir de saisie, mais quand il y en a une... On peut même avoir accès à une joie particulière, nous, la joie vipassana, on pourrait dire. C'est oh, là j'ai une saisie, j'en ai une belle. Et je le vois dans les entrevues. Pour moi, j'adore quand quelqu'un vient et dit ah, oh, Pascal, c'était tellement gros sourire, beaucoup de joie. Ah, je me suis venu devenir self-righteous, là, comme avoir raison. Tu sais, l'enseignant dit quelque chose, t'as dit quelque chose, puis tout à coup. Puis là, je me suis vu là, saisir un truc, là, puis m'identifier, puis avoir, tu sais. Puis là, waouh, c'était fascinant de voir à quel point tout à coup, waouh, je et raison est née. Et donc, c'est possible que la saisie mène vers la joie. Comment? Quand la saisie est connue avec conscience. Waouh, là, l'esprit s'est vraiment accroché à un truc. Ça va être intéressant de voir. Et donc, parfois, il y a une saisie, puis on voit là. On va faire payer quelqu'un, ou il va avoir une série de choses qu'on va faire parce que là, la saisie est là, puis elle ne va pas démordre. Ben, moi, je suggère que si c'est le cas, au moins soyons conscients. Restons présents. OK, je vois, je suis parti avec ce truc-là, je ne le lâcherai pas. Ben, je vais essayer d'être réveillé au moins. Voir les dommages pendant qu'ils seront causés. Puis rester après pour la honte, etc. Tout le truc, toute la danse au complet. OK, j'ai été éveillé au milieu, à travers tout le processus. Alors saisir la notion de confort, plaisir, les saisies autour de ça, déplaisir, saisies autour des opinions, points de vue. Une autre saisie dans cette liste-là, c'est la saisie autour des rites, rituels, conventions, normes. Très intéressant. C'est un champ que moi je trouve très très intéressant. Une image qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est en fait c'est un texte que je lisais de Rita Gross, qui est une penseure bouddhiste féministe, puis qui disait, ben moi j'ai une forme, il y a une certaine forme, et sur cette forme-là, les gens projettent que cette forme-là a eu des enfants, aurait dû en avoir, certainement voulu en avoir, que cette forme-là doit être mariée, mariée à une autre forme qui est très précise dans la tête de... et que cette forme-là a ces qualités-là, ou a cherché au moins à les développer, et n'a surtout pas ces qualités-là. Et si cette forme-là a ces qualités-là, on va lui rappeler que ce n'est pas les qualités que cette forme-là devrait avoir. Est-ce que vous reconnaissez quelque chose dans mon langage codé? Alors ça, c'est vraiment adhérer à comment on peut saisir les formes. Combien il y a de meurtres annuellement sur la planète parce que quelqu'un exprime son genre d'une façon que d'autres, avec laquelle d'autres ne sont pas d'accord? Que non. Quand tu as cette forme-là, tu ne mets pas une jupe. Quand tu as cette forme-là, ça, non. Donc la violence, à cause de la saisie, à cause d'une façon normative, ou une norme qui est établie, puis à laquelle on s'accroche. Ça, c'est un petit exemple dramatique, mais important, mais c'est un exemple parmi 100 000 exemples. Et donc, on vit dans un monde de normes, de normalisation, de conventions. Et on peut nous-mêmes saisir ça, ou comme société saisir ça, ou un groupe peut avoir une grosse saisie autour de ça. Puis là, tout le trouble qui s'ensuit. Alors, c'est un champ intéressant de pratique pour un pratiquant, là. De devenir conscient de ça. Quelle est la convention? Puis est-ce que je veux y adhérer ou pas, ou comment? Puis aussi comment on peut avoir un rapport aux normes, par exemple, qui est troublé, tu sais, on le rejette immédiatement. Que ce... Alors, il y a tout un champ de on peut être, auquel on peut être éveillé, de recherche, c'est comme ça que j'appellerais ça, par rapport... Moi, ça me touche particulièrement comme homme gay, d'être dans une réalité, une société... hétéronormé, hétérocentrique, hétérosexiste. C'est une chose, j'ai un point de vue particulier, j'ai un point de vue privilégié, on pourrait dire, qui me permet de voir comment c'est codifié et tout. Même au moment où je dis ça, je me dis, c'est très possible que dans plusieurs esprits, ça, non, mais ça, t'es pas obligé, ça nous intéresse pas. T'es pas obligé de mentionner ton orientation sexuelle. T'sais. Alors, tu sais. Je sais par exemple que si je dis ah mon partenaire, alors que des fois j'enseigne en groupe avec des gens, les gens disent ah mon épouse, et il y a aucun problème, c'est très bienvenu, alors que moi si je dis mon partenaire, wow, ça prend quand même une dose de courage. Hein? Ce qui est beau avec ça, je dirais, j'arrêterai ça là, mais ce qui est beau avec l'idée des normes et tout pour moi, ce que la pratique m'a amené, c'est j'ai l'impression que la présence donne accès à une éthique intérieure qui fait qu'on peut clarifier pour nous quelles sont les normes puis lesquelles auxquelles je veux adhérer ou pas. Puis est-ce que donc je peux clarifier pour moi, ah oui, OK, donc ma société me dit que ça, c'est mauvais, qu'on ne devrait pas être ça. Et moi, qu'est-ce que... Il va falloir que je sois très attentif pour clarifier ça. Est-ce que je veux participer à ça ou pas? Ou je me retrouve dans un groupe et là, il y a une certaine norme. Et donc là, je peux voir, OK, ça, j'aime ça, ça va. Et ça ne résonne pas, en fait. Je pourrais facilement tomber dans le panneau parce que c'est valorisé. Mais alors, pour clarifier les choses pour soi-même, ça va prendre beaucoup d'écoute, beaucoup de stabilité, beaucoup de clairvoyance. Il va falloir voir clairement quels sont les contrats, les conventions, puis lesquels semblent justes ou pas, là. Puis, je veux dire, ça s'applique ici. Vous avez peut-être des exemples qui vous viennent à l'esprit, là. Et j'aime, moi, cette pratique-là parce que, d'après moi, ça parle beaucoup d'indépendance. C'est-à-dire que je peux avoir un regard critique qui est le mien, de mon point de vue. J'ai pas l'impression qu'on est invité à un système de croyance, mais plus à questionner la réalité pour voir pour nous-mêmes qu'est-ce qui est quoi. Le dernier, mais non le moindre champ dans cette liste des quatre-là, donc je repasse là-dessus, les saisies, les prises, comment on reste accroché autour du fasciné, obnubilé, chargé, autour des plaisirs, des points de vue, des opinions, des conventions, des normes, des façons de faire. Et le quatrième, c'est une saisie qui parfois est très, très évidente, immense, puis parfois extrêmement subtile. Puis ici, on est invité à aller explorer ça. Encore une fois, pour moi, ça parle, ça dit toujours, waouh, ça va prendre une telle stabilité, ça va prendre une telle, je sais pas si c'est dévouement le mot, mais va j'essaie de penser au mot que Goenka dit des fois pendant la retraite, ouais. Avec ce mot-là, comme c'est pas continuité, mais ouais, ça m'échappe, excusez-moi. L'impermanence de la mémoire, la nature vacillante des idées. Donc, c'est ça, je me dis, waouh, il va falloir être tellement attentif. Là, on ne parle pas d'une attention ordinaire, là. On parle vraiment d'une attention subtile, particulière, pour défaire les nœuds et les méprises là-dedans. Waouh, là, ça va très loin. Et donc, ça, c'est le champ de la prise, la saisie, qui est le champ de l'appropriation ou de l'identification. Tout ce qui est moi, mien, à moi, tout ça. Et là-dedans, on dit qu'il y a une méprise, qu'on prend comme étant soi quelque chose qui ne peut pas être, qui peut pas être, donc qu'on ne peut pas s'approprier, il ne peut pas y avoir appropriation. Il y a méprise s'il y a appropriation. Par exemple, moi, le jour où j'étais chez le médecin, j'ai compris que ce n'était pas ma santé. J'ai compris qu'il y avait la santé, qu'elle était conditionnelle, elle appartenait à l'univers, et qu'elle était là, et que là, elle n'était plus là. C'était pas exactement. J'étais pas. Même moi, ça allait plus loin. C'était pas ma santé. J'étais la santé. À 25 ans, j'étais la santé. Je ne le savais pas. C'était une croyance cachée. Mais j'étais la santé. J'étais une expression de la santé. Puis tout à coup, on m'a dit, mais non, toi, tu n'es pas la santé, tu es la maladie. Chez nous, on dirait méchant switch d'identité. T'es pas ce que tu crois être, t'es autre chose. Et puis là, ben, il y a l'autre problème de s'identifier à la maladie. Tout à coup, donc, je suis une personne malade, voici mon identité. Comment est-ce que ça agit une personne malade? Quelle place ça a? Ça doit se reculer, si je comprends bien, etc. Nouvelle identité à saisir ou pas. Et donc, ici, on s'attarde à l'expérience immédiate pour découvrir, peut-être, tranquillement, la nature des choses. Je reviens souvent avec ça parce que ça me semble être comme ça tranquillement que j'ai découvert les choses moi-même ou une façon peut-être utile de qui fonctionne pour l'expliquer, mais je suis assis comme ça, je crois que c'est mes mains. Avant la retraite, je crois que c'est mes mains. Après plusieurs heures d'observation, de vécu direct, de éprouver les mains, je découvre en fait que c'est un champ de picotement. Ça me paraît vraiment étrange de posséder un champ de picotement. Ou comment posséder même un seul picotement qui est apparu et disparu automatiquement. Immédiatement. Comment posséder une inspiration qui est arrivée d'elle-même et qui a duré quelques secondes? Comment est-ce que je peux posséder la respiration? Plus ça va, plus ça m'apparaît complètement saugrenu, comme et aléatoire et conventionnel. Ok, donc ceci est à moi et ceci n'est pas à moi. Ben oui, absolument. C'est à Charles. Et ça, c'est à toi. Mais en même temps, n'importe qui, à un moment, si je l'oublie là, quelqu'un pourrait venir et prendre mon crayon. Où est mon crayon? Si quelqu'un le prend, il vient juste de me montrer que ce n'était pas absolu, en tout cas, comme possession. Hein? Que c'était relatif, conventionnel. Puis de cette même façon-là, je suis assis, puis tout à coup, je vois une émotion apparaître et disparaître. J'ai plus accès. Mais je vais dans une rencontre avec quelqu'un, quelqu'un me dit, mais non, c'est moi qui l'ai. Hey, c'est mon émotion. Ah non, la peur, la fierté, la ludicité, si ce mot-là existe, sont du domaine public. Ah, c'est drôle que je me sois approprié ça. Une idée apparaît, disparaît, oups, tout à coup, c'est l'autre qui l'a. Je pourrais m'approprier les idées qu'il y a dans. Non, mais plus je suis attentif, plus je vois en fait qu'ils débarquent. Elles me sont imposées, la plupart d'entre elles. Moi, je voudrais juste être là, respirant, puis tout à coup, il y a des pensées qui sont émises ou reçues, mais pas exactement par moi. Oui, des fois ça m'apparaît comme ça, mais c'est très vacillant. Certaines je reçois, certaines j'émets, certaines arrivent. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? En tout cas, ça m'apparaît comme ça à moi, là. C'est comme ça que je me dis, ah non, les pensées non plus. Les émotions, non. Ce sont plutôt des choses qui visitent l'expérience, qui apparaissent, disparaissent. En plus, je vois que de plus en plus que c'est conditionnel, dépendant de ce qui le contact qui se produit à l'oreille, ça va produire une autre émotion. Ah. Alors ça, est-ce que ça m'appartient à moi ou ça appartient à la chaîne d'événements qui s'est produit? Alors, cette ligne-là devient de plus en plus moins claire. Donc, quelqu'un dit au Bouddha, vous, je ne sais pas s'il parle en québécois ou. S'il parle en québécois, il dit vous, là, vous, là, Bouddha. Dites-vous encore je? Puis le Bouddha répond, oui, les personnes sages ils disent je, mais ils connaissent la limite de ce langage. Ils ne tombent pas dans la méprise, la petite erreur de s'approprier les choses. Un autre endroit, j'aime beaucoup, le Bouddha semble dire, bon, il y a quand même 2600 ans qui nous séparent, 2600 ans de toutes sortes de choses. Mais il semble dire, ah, l'élément de la terre, un langage un peu archaïque, mais, ben, qui, pas nécessairement, mais qui peut nous apparaître comme ça, du moins. L'élément de la terre, donc la dureté sur les fesses au moment de l'assise, là, ça fait bientôt 1 heure. Je pense que l'élément de la terre est devenu clair. Il est apparu. Alors, l'élément de la terre, oui, l'élément de la terre. Les personnes sages ressentent l'élément de la terre, puis s'arrêtent là. Les personnes un peu moins sages font une légère erreur, ils ont une légère petite méprise. Ils reconnaissent l'élément de la terre, c'est bien reconnu, aucun doute, mais ils se l'approprient. Ils s'identifient à cet élément-là. Mes fesses. Ma douleur. C'est un tout petit ajout. qui crée beaucoup de troubles. Puis donc ici, on est là pour corriger un peu, au moins questionner quelque chose d'aussi, qui semble aussi intrinsèque, essentiel, pas questionnable. Hein? On est ici pour questionner ça, puis aller voir, donc plonger sous les idées préconçues pour aller voir est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que je peux posséder un pas? Est-ce que je peux posséder une inspiration? Est-ce que je peux posséder une opinion vraiment qui risque de changer à tout moment dépendant de ce à quoi je suis exposé? Est-ce que je peux posséder quoi que ce soit? Sachant que les choses sont absolument vacillantes, apparaissent, disparaissent, puis à un moment peut-être n'apparaissent plus. Moga Raja demande au Bouddha, comment est-ce que je peux, je traduis, comment est-ce que je peux éviter le regard du spectre de la mort? Méchante question, comme on dit chez nous. Est-ce que c'est la question que vous auriez posée? Je trouve que c'est une bonne question. Tu peux poser une question à l'être le plus sage. Vas-y, quelle est ta question? Comment éviter le regard du spectre de la mort? Mogadja, soit très attentif et ne t'approprie quoi que ce soit. Je ne sais pas si syntaxement parlant ça va, mais... Sois toujours absolument attentif. Sois présent. Établis une présence de qualité et ne t'approprie rien. De cette façon, tu éviteras la mort. Alors, la saisie dans la forme de l'identification, dans la forme de l'appropriation. Chez moi, de mon côté de l'étang, on voit les dommages de l'appropriation, ce qu'on appelait le colonialisme. Ça débarque, puis ça s'approprie quelque chose qui ne lui appartient pas. Puis c'est la merde après. Parce qu'il y a eu appropriation de la nature. Puis, je vois quelque chose dans la décolonisation de l'expérience humaine. Remettre à la nature ce qui lui appartient. C'est pas facile. C'est une tâche très, très délicate d'éveil à la nature des choses. Donc, on prête à la technique ici, ou l'attitude, c'est qu'on prête attention juste pour que ça se révèle de soi-même. Qu'en fait, c'était pas à nous exactement. Que c'était pas nous exactement, mais que c'était bien là, ou que c'est bien là, mais peut-être pas exactement mien ou moi, mais appartenant, je sais pas, on pourrait présenter comme ça, à l'histoire de l'univers. J'ai juste pris personnellement, quelque chose qui l'était peut-être pas tant que ça. Alors là, comme changement de perspective, hein, va vraiment falloir être attentif pour voir ça, pour clarifier ça. Et on a quelques jours pour aller étudier ça. Quelques précieuses heures, minutes, s'il vous plaît. Il ne faut pas les perdre. Ils sont précieuses. OK, un petit moment de silence peut-être. Je suis, je serai, j'étais. Ceci est une conception. Ceci est conçu. Je suis, je serai, j'étais. C'est C'est une création, une excroissance, une flèche. Qui ira marcher? Qui ira, qui sortira le désir d'une bouffée d'air frais, le désir de délier les jambes, la convention? Qui ira marcher? Une habitude, le désir de voir la montagne. Qui ira marcher? Et qui reviendra? Ce soir pour la dernière assise. Merci.